CJSO 101.7. La Tribune. Une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la Tribune. Voici Sylvain Rochon.
Bonjour, bon midi à l'émission aujourd'hui de jeunes scientifiques lauréates et lauréats de l'Expo Sciences Locales, accompagnés des profs Daniel Lacasse et Sandra Pinard. Je reçois Ellie Hills, Andrea Kéou, Étienne-Alexandre Tamno-Fodzo, Ariane Bergeron, Lionel Farel Tchoumbouin Tchoumi. Là, je vais peut-être abîmer des noms, là. Là, j'ai deux profs qui me regardent, c'est tellement gênant. Abdoulaye Habib Ba, Nathaël Antaya, Mathis Adam Lorty et Laurélie Bibot. C'est pas si pire. Alors, ils seront tous là après la pause. Bougez pas!
Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez une vaste sélection de mobilier de salon, cuisine et chambre à coucher, de matelas et d'électroménager pour répondre à tous vos besoins. Nos conseillères pourront vous guider afin d'ajouter audace et élégance à votre décor. Profitez aussi de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez lemeublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos collections et les nouvelles tendances. Meubles André Beaulieu, spécialiste en matière de mobilier de qualité de génération en génération.
Vous manquez de temps la semaine pour magasiner une auto? Bonne nouvelle! Hyundai et Kia Sorel Tracy sont maintenant ouverts le samedi. Plus de 100 véhicules d'occasion de toutes marques pour tous les budgets. Avec plus de 1200 transactions en 2025, nous offrons le plus grand inventaire de voitures d'occasion certifiées du secteur de Sorel. Et profitez de taux à partir de 3,99%. Choix, flexibilité, économie. Le samedi, ça se passe chez Hyundai et Kia Sorel Tracy.
Express Pub.
La clinique d'impôt du Centre d'action bénévole du Bas Richelieu est de retour. Du 2 mars au 30 avril, présentez-vous sur place les lundis seulement de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30. Des documents papier tels que T4, relevé 5, relevé RRQ, relevé 31, taxes municipales et autres vous seront demandés. Info au 450-743-4310.
La Tribune. Une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la Tribune.
Leur concours scientifique ouvert aux jeunes des quatre coins du Québec, l'Expo Science Hydro-Québec, offre de réaliser un projet passionnant d'expérimentation, de conception ou de vulgarisation en solo ou en duo. J'ai avec moi ce midi des élèves de chez nous qui ont vécu cette expérience à l'échelle locale et la vivront de nouveau à l'échelle régionale à Trois-Rivières à la fin mars. Ils sont 9 à participer à cette émission, les accompagne, et c'est à elles d'abord que je vais m'adresser, les accompagne Daniel Lacasse, qui est enseignante en sciences et technologies en première secondaire, et Sandra Pinard, qui est enseignante en sciences et technologies en deuxième secondaire. Bonjour Daniel, bonjour Sandra.
Bonjour.
Bonjour.
Qui est Daniel, qui est Sandra?
Daniel.
Sandra. Ah ben oui. Combien furent-ils d'élèves à participer à l'Expo Science locale, dites-moi?
On a une soixantaine de projets qui ont été présentés au mois de janvier à toute l'école. Il y a des élèves qui étaient seuls, des élèves qui étaient à deux. Donc, plus ou moins une centaine d'élèves qui ont participé,
ça fait du monde.
Ont présenté leur projet.
Est-ce que c'est une participation volontaire, ça, ou ça découle des cours qui suivent? Ils doivent...
Jusqu'à un certain point, c'est volontaire. Ben, d'abord, c'est les élèves qui se sont inscrits à l'option science à l'école, parce qu'il y a plus qu'une option. Donc, ceux qui sont inscrits à l'option science ont préparé un projet. Et vu qu'on a plusieurs groupes dans l'option science, il n'y a pas de la place pour tout le monde à la bibliothèque. Donc, on demande aux élèves, ceux qui sont intéressés, à présenter leur projet. Ceux qui ont préparé un projet de façon plus élaborée, on les pousse peut-être un petit peu plus.
D'accord. Combien seront-ils à la finale régionale d'ici, là?
Il y a 12 projets de l'école qui s'en vont à la finale régionale.
Ces expos sciences, elles proposent aux élèves d'oser la science. Je pense même que c'est le slogan de l'expo science Hydro-Québec. Pourquoi oser? Est-ce que c'est parce que la science a quelque chose de rébarbatif, de peu accessible, qu'elle demande à être apprivoisée? Sandra, Daniel, Sandra?
Bien, c'est sûr que la science, c'est pas quelque chose qui que les gens connaissent tant que ça. Pourtant, ça demande juste une belle curiosité. Fait que je pense que la plus belle qualité d'un scientifique, c'est la curiosité. Puis c'est un peu ça quand on dit « oser la science », c'est oser aller un petit peu plus loin, oser rechercher des choses, oser se poser des questions, puis oser aussi le proposer aux autres dans un langage que les gens connaissent avec un langage commun vulgarisé. Fait que je pense que c'est ça qui est oser la science, c'est oser se lancer là-dedans, oser se poser les questions, puis oser en parler autour de nous. Donc, on se pose toutes des questions, puis là, les élèves, ben se sont lancés, puis ils ont osé nous proposer des projets ô combien innovants.
J'en conclue, parce que la première chose que j'ai retenue, moi, c'est la curiosité. J'en conclue que vous êtes une curieuse.
Ah, oui. Et c'est la plus belle qualité là, qu'on peut donner à nos élèves, la curiosité, la créativité. Chez un scientifique, c'est quelque chose qui est vraiment là, la base qu'ils doivent développer, puis tous nos élèves ont cette qualité, c'est certain.
Est-ce que vous avez vous-même, étudiante, élève, participé à ça, l'Expo Science?
Moi, non.
Non?
Moi non plus.
Ben voyons.
Il n'y avait pas, il n'y avait pas ce projet dans ma région, moi.
OK.
On vient de la même région.
Un petit peu loin l'une de l'autre, mais on vient de la même région dans l'ouest du Québec.
C'est quoi un projet d'Expo Science? Est-ce que ça peut partir d'une idée vraiment toute simple?
Il y a vraiment de tous les projets. Tu sais, comme je vous dis, c'est la curiosité sur un peu tout ce qui touche. Fait que tout ce qu'on peut observer autour de nous peut faire un projet d'Expo Science. Tout phénomène. Tu sais, le réchauffement climatique, on en a sur la physique quantique. On a eu des élèves qui ont parlé de différents minerais ou roches avec des propriétés. C'était vraiment super intéressant. Certaines maladies aussi. Il y a beaucoup d'élèves qui étaient curieux par rapport à ça, qui ont amené des choses. J'ai appris beaucoup des élèves.
On va entendre parler de maladies, d'ailleurs, ce midi. Avis aux hypochondriacs.
Oui, c'est pas un projet de cette année, mais j'ai déjà un élève qui m'a appris quelque chose sur un champignon qui avait vu dans le cordyceps, un champignon qu'il avait vu dans un jeu vidéo.
Ah, ouais.
Fait qu'ils prennent leurs idées un peu partout.
Mais bon, alors c'est une idée toute simple, mais développée en appliquant la démarche scientifique. Qu'est-ce que ça implique, ça, une démarche scientifique?
Ça implique plusieurs étapes. Donc, il faut qu'ils...
Dans le fond, il faut qu'ils trouvent le but. Pourquoi cette question-là les interpelle ou les ont amenés à se poser des questions sur ce sujet-là? Fait que dans le fond, pourquoi c'est le sujet que j'ai choisi? Ensuite, essayer, avec ses propres expériences, d'extrapoler ça pourrait être quoi? Un travail de recherche qui va autour de ça. Donc, vraiment aller chercher toutes les informations complémentaires.
Recherche sérieuse
oui. Sur des sites et des sources fiables.
Oui, donc, ça, sur Internet, il y a beaucoup de choses. Donc, il faut trouver des informations qui sont fiables.
Mm-hmm. Fait que ça, c'est un beau projet. Puis après ça, de le mettre, sélectionner l'information fiable et de le faire tenir sur une pancarte avec les bonnes informations qui vont être capables d'expliquer le projet. Là.
Est-ce que vous observez Sandra et Daniel, qui a des champs d'intérêt récurrents d'année en année, des objets récurrents de curiosité?
Ça arrive un petit peu, mais chaque année, il y a des élèves qui nous surprennent.
Un projet, est-ce que ça demande beaucoup de temps à être développé en fonction d'être présenté en public?
On travaille tout l'automne sur le projet. Il y a plusieurs cours qui sont attribués, une 10-12 cours qui sont attribués au projet, puis il y a des élèves qui en font un petit peu chez eux aussi.
Alors, c'est des mois là, de travail. Là.
Oui, tout à fait. Puis les périodes le midi, il y a beaucoup d'élèves qui, à tous les midis, pendant un bon 2-3 semaines, si ce n'est pas plus, étaient là avec leur ordinateur, continuaient leur projet. C'est un travail d'impression, c'est un travail de présentation. C'est beaucoup d'heures que les élèves mettent là-dessus, puis c'est vraiment beau de les voir
travailler.
C'est pas
fait sur le coin d'une table.
Non, absolument non. pas.
Préparer non. des affiches aussi, préparer des PowerPoint pour pouvoir faire leur présentation. Donc, on navigue dans beaucoup d'outils informatiques et dans beaucoup d'informations scientifiques.
Puisqu'il faut, vous en parlez là, présenter l'objet de sa recherche, non seulement ça demande des habiletés scientifiques, mais un don pour la vulgarisation?
Choisir les bons mots, choisir un peu comme la radio, hein, on doit vulgariser l'information pour que les gens, tout le monde, ça soit accessible. Il y a aussi un beau travail de créativité, parce qu'il faut que ton affiche, elle soit attrayante. Ça aussi, là, il faut que ton travail soit complet, ça soit attrayant, que les gens qui vont passer à l'Expo Science, ton projet, attire l'œil, attire le juge, les gens qui vont venir les voir. Ça aussi, il faut aller chercher ça. Fait que, tu sais, au niveau des couleurs, au niveau des images que tu vas mettre, la grandeur des caractères, tu sais, tout ça doit être contrôlé pour attirer la personne de venir et que ça soit un tout qui se présente bien.
En présence d'équipes de deux, parce qu'on peut mener sa recherche et la présenter en solo ou en duo, en présence d'un duo, est-ce que vous sentez qu'un membre du tandem est davantage le scientifique casanier de laboratoire puis l'autre le vulgarisateur extraverti? Est-ce que...
Ça arrive. Il y a toutes sortes de combinaisons. Il y a des combinaisons où les gens se complètent. Il y a des combinaisons où un travaille plus que l'autre. Il y a des combinaisons où est-ce que il y en a un qui est plus, comme vous dites, extraverti, qui explique mieux, puis l'autre va faire plus le travail de recherche en arrière.
Est-ce que vous sentez chez de jeunes participantes et participants le potentiel de devenir de grands et de grandes scientifiques? Est-ce que vous sentez ça?
Définitivement.
Ben oui.
Ah oui?
Oh oui.
Telle personne, elle va aller loin, oh oui. Il va aller loin.
Oui, il y a des intérêts qui sont marqués parfois.
Oui, oui. Il y a des équipes qui se démarquent, puis c'est pour ça qu'on a des personnes qui vont nous représenter au régional, qui ont été sélectionnées, là, qui sont hors du commun, là.
Mais merci beaucoup, Daniel Lacasse et Sandra Pinard, d'accompagner ces jeunes aujourd'hui, puis tout au long de l'année scolaire. Je me tourne...
Bien, merci à vous de l'invitation.
Merci beaucoup.
Ça m'a fait vraiment plaisir. Je me tourne vers l'un de ces jeunes scientifiques. Il s'appelle Ellie Hills. Tu es étudiant de première secondaire au programme Techno-Sciences. Ton projet, c'est le robot déchet. Avant, Ellie, de nous parler de ce robot, raconte-moi comment il t'est venu en tête de t'intéresser aux déchets.
Dans le fond, c'est parce que je m'y suis venu en idée que il y avait vraiment un gros problème dans la Terre, que on polluait beaucoup trop. Fait que je voulais vraiment inventer quelque chose qui pourrait aider les gens et encourager les gens de jeter leurs déchets d'une manière plus, mettons, si on peut dire...
Responsable?
Le fun est responsable, ouais. Oui.
Tu dis le fun? Tu penses qu'on peut s'amuser, toi?
Oui, parce que, dans le fond, c'est un robot qui est capable vraiment comme de prendre directement, de te parler, de prendre le déchet dans tes mains. Donc, tu peux, tu sais, c'est comme amusant de parler avec lui, des choses comme ça.
Alors, ton robot, il veut faciliter la gestion des matières... résiduelle, je pense que c'est comme ça qu'on dit ça. Est-ce que tu as mis beaucoup de temps à réaliser ta recherche, puis à réunir, puis créer les éléments qui, depuis ton kiosque à l'Exposciences, te permettent de nous en partager le fruit?
Oui, dans le fond, dès que je l'ai su qu'il y avait ce projet-là cette année, je m'y mis tout de suite au travail sur mes idées, puis comment est-ce que j'allais faire ce projet-là.
Ah, tu as dû produire beaucoup d'éléments, là?
Oui. C'était quand même assez compliqué. Il y a beaucoup de choses qui m'ont aidé aussi.
C'est ton choix de participer à l'Exposciences en solo? Est-ce que tu as considéré la possibilité d'y aller en duo? Tu dis oui, c'est mon choix.
Ben, moi, oui, je voulais le faire toute seule parce que, si, mettons, c'était mes idées, fait que j'étais pas obligée d'accepter les idées des autres. Fait que je pouvais vraiment développer mon idée à moi.
Est-ce une partie que tu aimes, la vulgarisation, expliquer au public, lui communiquer tes connaissances, est-ce que tu aimes cet aspect-là de l'Exposciences ou tu préfères la recherche à ça?
Moi, honnêtement, j'aime mieux la recherche parce que j'ai tout le temps été un garçon quand même assez gêné devant un grand public. Oui, je crois que j'ai beaucoup aimé mieux la recherche.
Est-ce que tu es confiant pour l'Exposciences régionale à Trois-Rivières?
Oui, je suis confiant parce que je me dis que ça va être une bonne expérience pour justement d'autres projets, mon CV aussi.
Tu penses déjà à l'avenir, toi?
Oui, oui.
Ah, fait que tu l'as, la piqûre des sciences.
Oui,
là.
Oui.
Ah, t'es un passionné.
Oui, j'ai
yeux,
tout le temps
là,
été
lumineux,
un
là,
passionné
brillant.
Des sciences.
Ouais. Comment l'expliques-tu, ça? Est-ce que tu tiens ça de quelqu'un dans ton entourage?
Non, pas du tout. Je tiens ça de personne de mon entourage. Ça a vraiment parti d'un intérêt quelconque que j'ai vraiment développé ça au maximum.
D'accord. Tu l'as un peu abordé en commençant, mais je vais quand même revenir à cette question plus grave là, pour conclure notre entretien. Est-ce que tu es confiant, toi, pour l'avenir de la planète? Est-ce qu'on gère comme on le devrait, nos déchets?
Moi, honnêtement, là, sans offenser les gens, moi, je pense qu'on est sur une mauvaise route pour la pollution. Puis justement parce que les gens, surtout dans les grandes villes, ceux-là qui se situent pas vraiment, mettons, dans le droit chemin, ils jettent vraiment leurs choses un peu partout, ils laissent tomber leurs choses, ils ramassent pas. Malheureusement, c'est comme ça aujourd'hui.
Alors, tu fais ta part en nous conscientisant à ça. Oui. À travers des expositions. Oui. Ben, continue. Merci beaucoup. Félicitations, Élie. Merci à nouveau, Daniel. Vous avez le goût de l'applaudir. Hein? Applaudissez-le. Ben oui.
Il est si bon.
Ah oui, il est très bon, c'est vrai. Alors, merci à nouveau à vous trois. Je vais vous libérer. Après la pause, je m'entretiens. Là, j'y vais avec mon exercice d'articulation. Je m'entretiens avec Andrea Kéou, facile. Étienne Alexandre Tamno-Fotso. Lionel Farrell, c'est là que ça va se compliquer. Tchoubouine et Choumi Abdoulaye Habib Ba. Alors, à tout de suite pour la tribune.
La Caisse des Jardins Pierre de Sorel et le magazine Contact Affaires vous présentent la bonne nouvelle économique.
Le groupe Bell Canada est fier d'annoncer que son usine de fabrication Baby Bell à Sorel-Tracy est désormais zéro enfouissement. L'ensemble des matières résiduelles générées par l'usine n'est plus envoyé à l'enfouissement depuis le 1er décembre. Cette réalisation illustre l'engagement de Bell à l'égard de l'économie circulaire et d'une gestion responsable des matières résiduelles. Au Canada, le gaspillage alimentaire demeure un enjeu majeur. Bell souhaite contribuer, avec des initiatives comme le programme Zéro gaspillage, à transformer des produits légèrement endommagés en dons au programme Après la cloche et au Club des petits-déjeuners. Ces engagements représentent une valeur de plus de 150 000 $, l'équivalent de 531 700 repas pour les banques alimentaires du Canada et plus de 500 enfants nourris par le Club des petits-déjeuners pendant l'année scolaire.
La bonne nouvelle économique vous a été présentée par la Caisse des Jardins Pierre de Sorel et le magazine Contact Affaires.
Mardi dans Valérie, l'après-midi, on ouvre la boutique de souvenirs avec notre créateur de moments, Jean-Pierre Gravel. Une fois les Olympiques complétés, on se tourne vers le retour à la saison régulière du Canadien avec le journaliste Richard Labbé et Sylvain Rochon qui sera pour nos informations régionales.
Valérie, l'après-midi, une présentation de l'équipe Charbonneau-Chartrand, courtier immobilier Sutton, de la ferme du Barbu, Boucherie Royale et du William Henry. La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune.
Je reçois ce midi de jeunes scientifiques lauréates et lauréats de l'Expo Sciences locales. Avec moi pour les prochaines 12 ou 13 minutes, il y a Andrea Kéou, Étienne Alexandre Tamno-Fotso. Là, je m'excuse si j'abîme vos noms, OK? Je m'excuse, je suis pas bon, là. Lionel Farrell Tchoumbouine Choumi. Et Abdoulaye Habib Ba. Bah, c'est pas si pire. Andrea, je vais, si tu veux, commencer par toi.
D'accord.
Tu es étudiante du programme Technosciences en première secondaire. Tu vas te rendre en mars, représenter l'école à l'Expo Sciences régionale avec ton projet Scoliose détectée.
Oui.
Est-ce que tu te doutes de ma première question? C'est quoi ça, une scoliose?
C'est une déviation de la colonne vertébrale. C'est juste une déformation. C'est une déformation de la colonne vertébrale.
Est-ce qu'on naît avec cette déformation? Est-ce qu'elle survient à un moment donné dans l'enfance?
Ouais, vraiment dans l'enfance, pendant la croissance. Quand tu grandis, elle va se développer.
D'accord. Attention pour ne pas trop frapper sur la table. Pourquoi tu t'es intéressée à la scoliose?
C'était vraiment pour répondre aux questions de mes amis sur ma scoliose.
Ah, tu en as une toi-même?
Oui, j'ai une scoliose.
Ah non?
C'est pour répondre aux questions de mes amis qui me demandaient c'était quoi ce que je portais, mon corset, mon traitement. C'était quoi ce que j'avais. Et surtout répondre à mes questions que je me posais sur ma scoliose.
Bon, alors aide-nous à comprendre, à démystifier ça. Une fois détectée, est-ce qu'elle peut se corriger, la scoliose, par des traitements, une chirurgie, un dispositif orthopédique?
Oui. Comme moi, j'ai fait mon traitement par corset. Je suis encore en traitement par corset. Je fais un port de corset de nuit. En décembre, j'ai arrêté mon corset de jour. Mais j'avais deux corsets, un corset de nuit et un corset de jour. Vraiment, ouais.
Alors, mener ta recherche sur la scoliose, est-ce que ça t'a demandé beaucoup de temps ou pas tant, puisque tu es toi-même concerné, hein? Tu sais intimement ce que c'est, là, puis comment ça se traite, là, hein?
Ouais.
Mais ça t'a demandé quand même beaucoup de temps, cette recherche-là, puis la production des éléments pour le kiosque, là?
Au début, oui, parce que je manquais un peu d'informations, mais à un de mes rendez-vous, un de mes suivis à l'hôpital, et j'ai demandé un site où ce que je pourrais me référer à l'hôpital, puis m'envoyer un PDF où ce qu'il y avait beaucoup d'informations sur la scoliose, donc ça a été plus facile.
Ça, c'était précieux, hein?
Ouais, c'était très précieux.
Nous partager ce que tu sais de la scoliose et de ce que tu as appris sur la scoliose. Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que c'est très exigeant, ça, vulgariser ton savoir?
Je sais pas trop. Je dirais pas exigeant, mais...
Ça demande une certaine habileté, ouais. J'imagine. Choisir des bons mots pour rendre ça accessible.
Ouais, surtout adapter son vocabulaire. Qui est
la curiosité. Adapter son vocabulaire, oui. Ouais.
Pour les plus jeunes.
Oui, ouais. Parce qu'il y a des termes médicaux, j'imagine. Là, ouais. Tu ne veux pas nous perdre là-dedans. Là.
C'est ça.
Ouais. Est-ce que tu as hâte à l'expo régionale?
Oui, j'ai vraiment hâte.
Es-tu confiante?
Oui, je suis très confiante. Parce que je connais bien mon sujet. Je suis persuadée. Je suis pas gênée, je suis plus enthousiaste.
Ben, on te souhaite la meilleure des chances, Andrea, la meilleure des chances. Merci. À toi. Bravo pour cette recherche-là. Je vais me tourner vers... Ça va très rapidement, vous le voyez, parce qu'on a... vous êtes neuf jeunes scientifiques à l'émission aujourd'hui. Je me tourne vers Étienne-Alexandre Tamno-Fodzo. On se connaît, nous, il me semble, hein?
Ouais, j'étais venue l'année
passée. Oh, attends un petit peu, ton micro ne fonctionne pas. J'ai tellement de micros. Ah, là, ça va marcher.
Oui, j'étais venue l'année passée.
T'étais venue, hein? Toi, tu es étudiant du programme Technosciences en deuxième secondaire. Et si tu es venue l'an passé, c'est que l'an dernier, tu as représenté l'école, je m'en rappelle, avec ton projet Les enfants papillons.
Oui.
Est-ce que ça s'est bien passé?
Ah, ça s'était bien passé. J'avais passé à la régionale, mais j'ai pas réussi à gagner aux Québécoises.
OK. Puis les enfants papillons, là, ça n'a rien à voir, je me souviens, parce que moi, je pensais que ça avait à voir avec les papillons. Là,
non, ça n'a rien à voir avec les papillons. C'est juste qu'ils avaient une peau très fragile.
C'est ça. Et c'est une peau très fragile. Et cette année, c'est amusant parce que tu reviens avec une histoire de peau. Cette fois, ton projet, c'est peau de bête. Qu'est-ce que c'est, peau de bête? Est-ce que c'est une référence au cuir, là, la peau animale qui sert de vêtements, ou tu nous amènes ailleurs complètement?
En gros, c'est des personnes... qu'ils ont comme un syndrome qui fait qu'ils ont beaucoup de poils qui leur poussent beaucoup plus que la normale. Et ils ont comme... Ils ressemblent beaucoup à des loups-garous. C'est pour ça que j'ai appelé ça peau de bête.
Ah ouais? Fait que tu m'as encore eu avec ton titre. Tu fais exprès, je pense, hein?
Ouais.
Ouais, bébé papillon, là, peau de bête. Tout le monde pense que tu vas parler de cuir, puis ça, c'est pas ça du tout. Alors, des gens qui naissent avec une pilosité, là... disons...
Extraordinaire.
Pourquoi avoir fait de ce sujet-là ton projet?
Parce que ça m'intéressait beaucoup. Il y avait beaucoup de mythes autour de ça. Il y avait qui pensaient que c'était eux qui avaient créé le mythe sur les loups-garous. Du coup, je voulais m'informer un peu plus sur ça.
Et est-ce que c'est eux qui ont créé le mythe du loup-garou? Ces personnes-là, oui. La pilosité, là,
oui, c'est eux qui ont inspiré.
Oui. Ah oui?
Oui.
Eh bien. Puis est-ce que ça affecte beaucoup de... Je ne sais pas si le verbe affecté est bon, mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent avec ça?
Non, pas tant. C'est, je crois, une personne sur 1 milliard.
Eh là là, sur 1 milliard?
Oui.
Et c'est très, très, très peu. C'est très, très peu. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Est-ce que c'est la recherche? Est-ce que c'est creuser le sujet? Ou c'est communiquer au public le résultat de ta recherche?
Moi, je préfère communiquer au public parce que moi, j'aime beaucoup parler à des gens. Et rechercher, des fois, ça peut être ennuyeux, c'est difficile. Du coup, moi, je préfère communiquer avec les gens. Je préfère que les gens me posent des questions à propos de ça.
Et est-ce que tu trouves qu'ils t'en posent beaucoup de questions?
Ouais, quand même.
Est-ce qu'il y a des cols, des fois, des questions auxquelles tu te dis « Moi, je n'ai pas la réponse à cette question-là. »
Pas encore. Il n'y a pas encore eu de questions où je n'avais pas de réponse.
Oh là là! Alors, ça prouve que tu as travaillé fort sur ton sujet, là.
Et oui.
Qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as tiré comme leçon de ta première expérience à l'expo régionale qui va t'inspirer pour ta seconde expérience bientôt à Trois-Rivières? Tu sais, quelque chose que tu as fait la dernière fois, puis là, tu es revenu de là, puis tu as dit, non, la prochaine fois, là, je ferai pas ça. Raconte-moi.
J'ai appris qu'il faut pas trop stresser, parce que à la québécoise, vu que c'était par ordi, j'avais beaucoup stressé, ça avait bugué un peu. J'avais pris que si j'avais stressé pour rien. Faut aussi la première chose qu'il faut, c'est de s'amuser, parce que si tu t'amuses pas, tu vas pas avoir du plaisir, et si tu gagnes pas, tu vas être triste.
Hein? Mais est-ce que tu t'étais néanmoins amusé un peu là, dans
la Je fois? M'étais beaucoup amusé.
Ah, tu t'étais beaucoup amusé.
Surtout à la piscine de l'hôtel.
Alors là, tu te promets de t'amuser encore plus.
Oui.
Encore plus. Ben merci, puis on te souhaite en effet d'avoir du plaisir, puis pas juste du plaisir, également du succès. Merci beaucoup. Un duo maintenant, Lionel Farrell Tchoumbouin et Tchoumbouin Tchoumi et Abdoulaye Habib Ba. Ils sont étudiants au programme Technosciences aussi en deuxième secondaire. Ils vont représenter eux l'école avec leur projet E. coli, une bactérie aux deux visages. Alors bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
C'est pas une bactérie bien sympathique, ça, il me semble, le colis. Ça dépend. Bon, attends un peu, là. En tout cas, moi, celle que je connais, elle n'est pas pantoute sympathique. Pourquoi vous vous êtes intéressé à elle avant de parler de ces deux visages? Pourquoi vous vous êtes intéressé à elle? Qu'est-ce qui vous a attiré de la bactérie E. coli, la redoutable bactérie E. coli?
En fait, avant que l'école recommence, il y avait un de mes proches qui avait cette bactérie-là.
Ah ah!
Mais genre. C'est pas vraiment dangereux, en fait, c'est dans certaines souches, en fait, c'est des variantes génétiques qui font que, genre, si tu manges des aliments un peu contaminés ou mal cuits,
oui.
En fait, ça peut te causer des problèmes comme de la diarrhée sanglante et des maux de tête. C'est ça que, en fait, là, c'est ça qu'une de mes proches avait, donc je me suis posé la question, et ma mère aussi, elle parlait beaucoup de ça. Ce sujet, vu qu'elle est médecin, et je me suis intéressé à ça.
Votre titre, Une bactérie à deux visages, m'interpelle. Est-ce que vous me direz qu'elle n'a pas qu'un mauvais visage?
C'est ça.
Elle a aussi un bon visage?
Ouais.
Parlez-moi du bon visage, si tu veux prendre la relève, toi, avec le bon visage.
En vrai, la bactérie E. coli, elle est vraiment très importante pour la digestion. Elle permet aussi de produire de la vitamine K. Et aussi, lorsque on digère mal des produits, la bactérie E. coli peut la décomposer et se nourrir de ça.
Ah, bon. Est-ce qu'elle n'est pas même essentielle? Il me semble avoir... Moi aussi, j'ai fait mes petites recherches parce que je savais que je recevais de grands scientifiques. Est-ce qu'elle n'est pas aussi essentielle chez le nouveau-né, cette bactérie-là?
Oui.
Ouais, quand même.
Quand même?
Mais ouais. C'est juste qu'elle est moins efficace, vu que, genre, le nouveau-né comme un bébé...
Oui?
Ben, c'est ça, juste, elle... Le nouveau-né, lui, il mange pas des aliments. C'est quand tu manges des aliments contaminés que ça commence. Mais le nouveau-né, lui, il boit juste du lait. Alors, genre, c'est rare d'avoir ça sur un bébé, genre.
On ne la connaît pas suffisamment, cette bactérie-là, c'est pour ça, c'est cette méconnaissance-là que vous avez voulu vous attaquer avec votre recherche.
Au contraire. En fait, c'est l'une des bactéries les plus connues des scientifiques. Ils connaissent presque tout sur le sujet, ils connaissent les mélanges qu'elle peut donner et ses contraintes et ses avantages.
Mais c'est ça. Mais ce qu'on ne connaît pas, ce sont ces deux visages, ces avantages. Peut-être que le public les connaît moins, en tout cas.
Ouais, hein? C'est ça.
Est-ce que vous êtes confiants, les amis, pour la finale régionale?
Oui, on est très confiants. On pense qu'on pourrait gagner, car on a réussi à trouver de nouvelles informations sur la bactérie E. coli. Et voilà, on pourrait les ajouter puis l'expliquer à la régionale.
Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui est davantage le scientifique, le nez dans ses bouquins, puis l'autre le vulgarisateur extraverti, ou...
Oui. Mon coéquipier, c'était celui qui parlait beaucoup lors de la présentation. Et moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur la bactérie.
Ah, vous complétez comme ça?
Ouais. Oui.
Ouais, ben, je vous remercie tous les deux. Je vous souhaite évidemment la meilleure des chances à Trois-Rivières. Nous autres, à la Tribune, on va passer à la pause pour ensuite recevoir quatre autres scientifiques.
La santé mentale a mille et un visages. Trouver l'équilibre qui nous convient prend du temps et du courage. Chez Santé mentale Québec, Pierre de Sorel, on croit que c'est tous ensemble qu'on construit une société heureuse. Avec une variété de cours et d'activités, mais aussi des outils qui sont mis à la disposition de tous. Visitez la page Facebook Santé mentale Québec Pierre de Sorel. Parce que 100% des gens ont une santé mentale. Comment va la tienne?
Vous avez à cœur votre santé et celle de votre famille? Moi aussi. Ici David Gauthier. Dans les conseils Brunet sur les ondes de CJSO, on se pose des questions, on y répond et on vulgarise toutes sortes de situations. On prend soin de votre santé de la tête aux pieds. Du contenu informatif qui est loin d'être plate. Ça vaut la peine d'être bien renseigné? Alors, soyez à l'écoute les jeudis 17h15 pendant Valérie l'après-midi.
Les conseils Brunet. Présentation de David Gauthier, pharmacien propriétaire affilié à Brunet.
Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez une vaste sélection de mobilier de salon, cuisine et chambre à coucher, de matelas et d'électroménager pour répondre à tous vos besoins. Nos conseillères pourront vous guider afin d'ajouter audace et élégance à votre décor. Profitez aussi de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez lemeublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos collections et les nouvelles tendances. Meubles André Beaulieu, spécialiste en matière de mobilier de qualité de génération en génération.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaulieu.
À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
Je reçois ce midi de jeunes scientifiques, lauréates et lauréats de l'Expo Sciences Locales m'entoure pour clore cette émission. Ariane Bergeron, Laurélie Bibeau, Nathaël Antaya et Mathis Adam Lortie. Alors, bonjour à tous les quatre. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour, voilà. Ariane, tu es étudiante du programme Technosciences en deuxième secondaire. Deuxième secondaire. Est-ce qu'on s'est vu l'an passé, nous deux?
Oui, on s'est vu l'an passé.
L'an dernier, tu t'es pas intéressé aux galaxies?
Oui, c'est bien ça, les galaxies, entre autres, notre voisine et tous ceux qui étaient dans l'univers.
Ton titre, c'était « Une tache dans le ciel ».
Oui, ça faisait référence au bras de notre galaxie.
Est-ce que tu as retenu des leçons de l'expérience que tu vas appliquer en mars à Trois-Rivières?
Oui, à vrai dire, j'ai trouvé que je ne mettais pas assez d'humour, de joie de vivre dans ma présentation, donc je compte en mettre encore plus cette année.
Tu as préparé quelques bons gags, quoi?
Des quoi?
de bonnes blagues?
C'est plus des exemples loufoques plus que d'autres choses.
OK. Ton sujet est pourtant très sérieux. Ton projet cette année, c'est l'autisme, un problème de préjugés. Pourquoi ce sujet-là de projet, qu'est-ce qui te l'a inspiré? Pourquoi tu veux nous parler de ça?
À vrai dire, moi-même étant une autiste de niveau 2, j'ai voulu savoir ce qui se passait dans ma tête, aussi celle de mon frère qui est lui aussi autiste. Évidemment, ça, c'est différent sur chacune personne et je voulais savoir pourquoi ça affecte les gens comme ça, comme ça le fait.
C'est quoi ça de niveau 2? Qu'est-ce que ça veut dire?
En gros, il y a comme différents niveaux dans l'autisme.
Il y a un spectre, là.
Oui, il y a le spectre de l'autisme. Oui. Mais il y a trois niveaux principaux, niveau 1, 2 et 3. Okay. Moi et mon frère, on est tous les deux niveau 2, donc modéré, élevé.
L'autisme, un problème de préjugés. Préjugés est au pluriel dans ton titre. Il n'y a pas de point d'interrogation, donc c'est une affirmation. Tu estimes qu'il y a un problème de préjugés autour de l'autisme. Parle-moi de ces préjugés que tu as notés.
J'ai remarqué aussi, surtout à l'école, dans les classes, les amis qui vont se traiter d'autisme parce qu'ils font un truc bizarre ou stupide, qui n'ont pas des bonnes notes, vont se faire traiter d'autiste. Mais je trouve ça un peu méchant de dire ça parce que c'est pas nécessairement vrai. Moi-même, ayant des bonnes notes à l'école, ça veut pas dire que t'es autiste, que t'as un problème en étant stupide et bizarre. Souvent, il y a même la théorie qu'Einstein aurait été un autisme. Donc, je ne vois pas pourquoi ça sort d'où.
Ton objectif avec ce projet à l'Expo Sciences, c'est d'abattre ces préjugés?
Oui, j'essaye aussi de sensibiliser les jeunes, les ados et aussi les adultes qui ne voient pas l'autisme sous un bon angle. Donc, j'espère qu'avec ma présentation, ça pourra changer.
Le trouble du spectre de l'autisme, c'est un trouble qui est de plus en plus diagnostiqué?
Oui, je confirme. Avec les années, ça devient de plus en plus vu chez les personnes. Ouais. Mm-hmm. Souvent chez les jeunes ados et les jeunes enfants. Et il y a sûrement beaucoup d'adultes qui, dans le temps, n'ont pas eu leur diagnostic parce que ça se voyait pas vraiment dans le temps.
Alors, il y en a beaucoup qui sont des autistes qui s'ignorent.
Ouais, mais mon père, apparemment, il aurait peut-être été un autiste, mais puisque lui, dans le temps, ça se voyait pas vraiment.
Oui, oui.
Donc, il n'a pas eu son diagnostic.
Le fait que le diagnostic de l'autisme, du spectre de l'autisme, soit plus fréquent, ça ne fait pas de la personne qui en est frappée une personne moins à part, moins singulière? Le fait que c'est plus fréquent aujourd'hui, non?
Non, je trouve que fréquent ou non, on ne devrait pas mettre les autismes de côté. Il faudrait qu'ils soient avec nous dans la société et qu'ils soient acceptés. Je trouve que sérieusement, les gens, ils pensent que les autistes ne devraient pas être dans leur groupe d'amis. Ou
sérieusement? Sérieusement?
Ouais. Ah, oui. J'ai des amis qui m'ont laissé tomber quand ils ont appris que j'étais autiste. Littéralement. Parce qu'ils trouvaient que les autistes, ça ne devrait pas être dans leur groupe.
Ben, voyons donc. Eh bien, continue ta démystification de ça. Ariane, bonne chance. Bonne chance à toi, Rivière. Laurélie Bibeau, étudiante en quatrième secondaire, représentant l'école à l'Expo Sciences régionales avec son projet L'endométriose. Bonjour. Bonjour à toi. Est-ce qu'il s'agit de ta première participation à l'Expo Sciences?
Oui, c'est la première fois que je l'ai fait.
Ah, t'as attendu longtemps? Parce que là, j'ai reçu plein d'amis de secondaire 2. Oui,
mais j'étais en PEI, fait qu'on faisait pas l'Expo Science.
Ah, je comprends.
C'était pas inclus. C'est pas inclus aussi cette année, mais ça me tentait de faire quelque chose de nouveau, fait que j'ai décidé de le faire.
Est-ce que tu es une passionnée de science? Dirais-tu que tu as la piqûre
des sciences? Oui, je suis quand même curieuse. J'aimerais ça faire un métier dans le domaine des sciences, fait que oui, j'aime beaucoup les sciences.
Comment t'as développé cette passion-là? Parce qu'en passant, curiosité, là, je demandais tantôt aux enseignantes qu'est-ce que ça prenait. Puis, première réponse qu'une des deux a eue, c'est de la curiosité.
Oui. Bien, c'est les réseaux sociaux. Quand je vois des affaires passer puis que je connais pas le sujet, j'ai envie de faire des recherches dessus pour voir si c'est véridique. Puis là, ça amène des recherches puis l'intérêt pour des sujets.
L'endométriose, qu'est-ce que c'est l'endométriose?
C'est une maladie qui touche l'utérus, donc c'est l'endomètre, c'est ce qui tapisse l'utérus, ça se retrouve à l'extérieur de l'utérus, c'est ce qu'on appelle l'endométriose. Ça va causer des douleurs extrêmes pendant les règles, fait que ça amène des problèmes de santé souvent, parce qu'il y a plusieurs types d'endométriose, puis il y a certains types d'endométriose qui se forment partout dans le corps, ce qui peut endommager la fonction des organes. Puis on n'en parle pas assez, même s'il y a 1 million de femmes qui sont atteintes au Canada, fait que c'est important d'en parler parce que...
Est-ce que c'est 1 million de femmes qui savent en être atteintes ou qu'on suspecte d'être atteintes de...
Bien, ça, on ne sait pas trop, mais d'après moi, c'est qu'ils sont atteintes et qu'ils le savent, mais aussi, c'est que le diagnostic prend beaucoup de temps pour qu'on l'obtienne parce qu'on dramatise, on dit que les femmes dramatisent leur douleur, fait qu'on ne pense pas qu'il y a de bonne manière de diagnostiquer l'endométriose, surtout que... Il n'y a pas de bonne manière de diagnostiquer l'endométriose parce que les diagnostics ne sont pas véridiques.
Alors, c'est une affection qui est sous-diagnostiquée.
Oui. Ça prend environ 5 ans minimum pour se faire diagnostiquer.
Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée à ça?
Bien, quand je l'ai vu sur les réseaux sociaux, c'était une femme qui se plaignait du fait que ça avait pris 10 ans pour qu'elle se fasse diagnostiquer.
OK, puis là, tu t'es dit « c'est terrible ».
C'est ça. Puis en tant que femme, je ne savais même pas c'était quoi l'endométriose, alors qu'il y a la majorité des femmes qui sont atteintes d'endométriose. Donc, j'ai fait des recherches dessus. Puis ça m'a amené à faire l'Expo Science dessus.
Tes recherches, est-ce qu'elles t'ont mis beaucoup de temps?
Quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sites qui parlent de l'endométriose, vu que c'est une maladie qui n'est pas beaucoup recherchée. Puis aussi, il n'y a pas beaucoup de sites véridiques, vu que c'est une maladie qui est comme un peu dans... Mais, qui n'est pas mystérieuse, mais qui n'y a pas beaucoup de recherches. Fait que des fois, les recherches sont erronées. Donc, j'ai pris beaucoup de temps pour faire mes recherches puis m'assurer que les sites sont véridiques.
Bon, il y a la portion recherche dans l'Expo Science. Oui. Ça, on voit que t'aimes ça, là, t'aimes ça beaucoup, là, c'est clair. Mais ensuite, il y a la portion vulgarisation de cette recherche, présentation au public du fruit de tes recherches. Ça, c'est cet aspect-là des choses. Est-ce qu'il te plaît tout autant que le premier aspect?
Oui, bien, j'ai la misère à diviser mes informations. Fait que dans ma tête, tout est important. Fait que j'ai refait plusieurs textes avant de faire mon texte final pour la présentation. Oui.
T'as travaillé beaucoup là-dessus?
Oui. Ben, je parle vite, puis j'ai de la misère à articuler, donc de pratiquer.
Ben, ça paraît pas ici à la radio, tu caches bien ce problème-là. Alors, tu as bien hâte à Trois-Rivières? Est-ce que ça te rend nerveuse? Est-ce que...
Un peu, mais j'ai hâte parce que moi, mon but, c'est d'aller plus loin, puis que beaucoup de monde entende parler de ma présentation. Parce que mon but, c'est que ça soit inclus dans le programme, ben, pas dans le programme, mais dans les classes d'éducation à la sexualité.
Wow!
Pour que plusieurs femmes en entendent parler, puis qu'il y ait... Parce que aussi, c'est que les femmes ne savent pas c'est quoi, fait qu'ils attendent beaucoup de temps avant d'en parler parce qu'ils pensent que c'est normal.
Alors toi, là, tu mènes une lutte, là.
Oui.
Une lutte pour que ce soit inscrit dans le programme scolaire.
Oui.
Hey, c'est très intéressant. Ben bravo à Merci. Toi. Et puis, la meilleure des chances à Trois-Rivières, Merci. Évidemment. Les derniers, ils sont deux, Nathalie Antaya et Mathis Adam Lortie. Alors, bonjour les gars.
Bonjour.
Allô.
Étudiant au programme Technosciences, deuxième secondaire, vous allez représenter l'école à l'Expo Sciences régionales avec votre projet « De l'animal à l'homme, le parcours mortel de la rage ». Est-ce que sans mauvais jeu de mots, vous êtes tous les deux des mordus de science?
Oui, mais j'aime beaucoup la science. Depuis que je suis petit, j'aime ça, la science. Puis les animaux surtout, j'aime beaucoup ça. C'est pour ça que j'ai pris la rage, une maladie qui touche les animaux puis les humains.
Alors, une passion que tu as depuis longtemps, celle de la science.
Oui.
Et toi?
Même chose, pas mal. Mais je préfère l'espace.
Toi, tu préfères l'espace?
Oui.
Alors, c'est ton chum qui t'a convaincu. Non, on parle des animaux.
Ben,
on parle de la rage.
Je voulais parler d'une maladie au début, puis après, bon, on a choisi celle-là.
OK. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui est davantage Je décrirais le scientifique enfermé dans son labo, là, la tête dans les livres ou sur Internet, il allait se reconnaître, et l'autre plus le vulgarisateur, le prof, là, le conférencier. Comment vous vous décririez chacun, là? Il y en a un des deux qui est le plus dans les livres, là, devant l'ordi? Puis, là.
Pas vraiment.
Ah, ni l'un ni l'autre?
Ben, Nathalie a fait beaucoup plus de recherches que moi. Mais moi, j'ai vraiment pas fini les choses parce que lui, il a la dyslexie, donc il a la difficulté à écrire. Moi, j'ai vraiment plus corrigé les trucs, puis faire le texte, trouver... Ben, ensuite, il fallait faire un rapport. On a trouvé d'autres informations pour ajouter des affaires dessus. Ben, c'est ça. Là, on a fait le texte. On a présenté... Ben, moi, je suis moins timide que Nathalie. Donc, j'ai plus parlé, communiqué avec les autres pendant l'oral.
D'accord. Et comment ça se passe dans votre kiosque? Comment les rôles sont partagés? Comment vous avez convenu du partage des rôles, là?
Ben, en fait, il y a trois pages. Il y en a un qui lit une page, l'autre qui lit l'autre page. Puis à la dernière page, on se sépare en deux.
Dernière page, séparée en deux. Sinon, c'est une page.
Oui.
OK. Alors, vous avez vraiment 50-50 votre affaire. Et la rage, pourquoi la rage, puis son parcours mortel de l'animal à l'homme? Qu'est-ce qui vous a attiré de ce sujet? Là, je comprends, t'aimes les animaux, là, mais la rage, pourquoi la rage?
Ben moi, j'aime les animaux, mais aussi une autre affaire, c'est quand que, des fois, tu vois un raton laveur, une moufette, un animal qui peut se faire infecter par la rage, il y a beaucoup de monde qui disent, fais attention, touche pas cet animal-là, tu vas attraper la rage, alors que dans la plupart des cas, il n'y a même pas de la rage. Puis que moi, je trouve ça que c'est pas très gentil pour les animaux qui sont inoffensifs, pas infectés, puis que j'aime pas ça, là.
Alors, c'est pas vrai qu'il y a des animaux dont il faut se méfier davantage que d'autres.
Ben,
moi, je pensais que l'animal domestique, là, qui vient de quatre murs, n'était pas grand-chance d'avoir la rage, alors que l'animal sauvage, qui est dans la nature complètement, il y avait davantage de chance, mais c'est pas vrai, c'est pas...
Ben oui, quand t'es dans la nature, quand un animal qui est dans la nature, il a plus de chances d'attraper la rage. Sauf que au Québec, là, dans les 20 dernières années, il n'y a même pas eu plus que 20 cas de mort là, au Canada. Donc on n'est vraiment pas un pays à haut risque, on voudrait. C'est genre, on voit un animal, il n'y a sûrement pas la rage parce qu'il y a vraiment peu d'animaux qui ont la rage ici ou d'humains.
Alors, il ne faut pas généraliser, donc, à tous les animaux sauvages. Peu d'entre eux ont la rage, mais la rage, c'est une maladie qui peut être mortelle.
Oui.
Qui veut me raconter ça, là?
Ben, ça peut
être mortel. Très, très malade?
Oui, ça va dans le cerveau, puis ça tue le cerveau.
En gros, dès que tu as des symptômes, tu es presque sûr de mourir, malheureusement. Mais comme j'ai dit, au Québec, t'as pas... Au Canada, au Québec, t'as pas à t'en faire parce qu'on n'est pas un pays qui a beaucoup de cas de rage. Sauf que si tu te fais mordre par un animal, c'est mieux de directement aller laver la plaie, puis après aller voir un médecin.
Alors, faut pas niaiser avec ça.
Non, vraiment pas, parce que dès que t'as des symptômes, t'es presque sûr de mourir.
OK, le traitement est urgent.
Oui.
Avez-vous hâte à Trois-Rivières, les gars? Ma dernière question.
Oui, moi, je suis hâte.
Ça, c'est quand, ça? J'ai pas donné les dates exactes, là, depuis le début de l'émission. C'est-tu 26, 27? Il me semble que j'ai entendu ça. 26. Excuse-moi? 25, 26 mars, Trois-Rivières. Ben, on vous souhaite bonne chance pour Trois-Rivières.
Merci.
À vous deux, merci. Alors, ben voilà, c'est tout le temps que nous avons. Merci aux 9 élèves et aux 2 profs qui se sont prêtés à cette émission. On sort de cette émission plus brillant, me semble. Hein, trouves-tu, Joël Olivier, qui est aux communications au Centre de services scolaires de Sorel-Tracy, que je remercie de s'être prêté à réunir tout ce monde-là avec les profs et les responsables de sciences des deux polyvalentes. La semaine prochaine, la tribune va être consacrée aux activités qu'on nous propose pour la semaine de relâche. Je vous dis à la semaine prochaine. Et je remercie aussi, on avait un agent de circulation dans le hall d'entrée, parce qu'il y a beaucoup de monde. Alors, Laurent Cournoyer, qui a joué la police, a très, 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 très bien fait ça. Alors, à la semaine prochaine, tout le monde.